Bonjour à chacune, à chacun, et permettez-moi de vous adresser mes vœux de bonne année, une bonne année en Jésus-Christ, une bonne année spirituelle, une année où Dieu produise dans nos vies le fruit de l'Esprit. Et c'est formidable quand le fruit de l'Esprit peut abonder. En nous rappelant d'ailleurs que l'une des facettes du fruit de l'esprit, c'est la joie. Alors, à chacun une année remplie de l'Esprit de Dieu. Amen. Ce matin, nous sommes donc invités à nous joindre dans la prière et au travers de la semaine aux chrétiens dans le monde. Cette année, ceux qui ont organisé la semaine universelle de prière, on choisit comme thématique pèlerin, étranger et voyageur. Pèlerin, étranger et voyageur. Nous allons relire cet extrait dans l'épître aux Hébreux, où nous voyons Abraham, dont on va reparler. Mais en particulier, ce verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui parle ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Abraham, le pèlerin. Nous allons voir ce matin Abraham le pèlerin, Daniel l'étranger et Paul le voyageur. Nous avons ces trois mots, ces trois thématiques, pèlerin, étranger et voyageur, et trois personnages bibliques qui reflètent un petit peu chaque facette. En sachant que nous sommes invités à leur ressembler parce que le Seigneur nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre patrie n'est pas ici. Notre patrie, elle est au ciel, parce que notre Père est au ciel. Jésus a dit, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, c'est vrai, mais vous n'êtes pas du monde. Vous traversez cette terre et vous y êtes des pèlerins, des étrangers, des voyageurs. Mais vous ne lui appartenez pas. Et nous avons besoin, au travers de l'exemple d'Abraham, de Daniel et de Paul, de vivre vraiment cette dimension de notre identité chrétienne, reconnaître que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Alors, Abraham, voilà, il vivait en Mésopotamie, dans les années moins 2000, quelque chose comme ça, et il était bien installé dans sa ville, parmi ses contemporains. Et voilà que Dieu, un jour, se révèle à lui dans une vision, il lui parle. Et il se révèle à lui comme le Dieu créateur, le Dieu unique, alors que Abraham appartenait à une culture, une société, une patrie idolâtre. Et il lui dit, je suis le Dieu créateur, le Dieu unique, et je t'appelle à sortir de là. Je t'appelle à devenir une grande nation, une patrie, sur une terre loin de la tienne. Mets-toi en marche. Mais pour aller où ? Mets-toi en marche. Je te guiderai, je te montrerai. Mais pars. Et il part sans savoir où il va aboutir. Et nous voyons Abraham qui se met comme un pèlerin en marche et qui va habiter sous des tentes et aller à droite et à gauche jusqu'au lieu où Dieu l'établira. Mais quelque part de manière éphémère, en tout cas temporaire, puisqu'il attend la cité qui a de solides fondements, la patrie céleste. Nous, pour nous, ça nous pose la question, est-ce que comme Abraham, nous sommes prêts à quitter notre confort, nos aises, nos habitudes, pour aller et partir et nous mettre en marche, parce que Dieu nous dit, pars, mets-toi en marche, je t'appelle ailleurs, je t'appelle à autre chose, et nous voulons que tous les contours soient bien dessinés, nous voulons toutes nos garanties, nous voulons les tenants, les aboutissants. Et il y en a qui nous échappent. Et le Seigneur nous demande de lui faire confiance. Est-ce que nous vivons notre vie terrestre, nous l'avons souligné tout à l'heure dans le temps de prière, en ayant conscience que nous sommes de passage sur cette terre et que c'est quelque chose qui est pour un temps, et que l'énergie que nous investissons, l'argent que nous investissons, le temps que nous investissons, les talents que nous investissons, nous avons besoin non pas de les investir pour des choses qui ne durent pas, qu'on ne peut pas emporter au ciel. On ne peut pas les emporter au ciel. Mais nous avons besoin de les investir pour des choses dont la valeur est éternelle. Abraham a compris ça. Et il a quitté son investissement, j'ai envie de dire terrestre, il a quitté cette vie où son temps, son argent, ses capacités étaient investis pour sa culture mésopotamienne, avec ses idoles mésopotamiennes, sa parenté, etc. Voilà. Mais des choses qui n'avaient pas de valeur éternelle, parce qu'elles n'étaient pas en Dieu, elles n'étaient pas ancré dans la volonté de Dieu. Alors nous sommes invités à, comme Abraham, à nous dire, j'ai une existence à vivre, mais je vais la vivre en pèlerin. C'est-à-dire, je vais la vivre en étant conscient que je suis de passage, simplement, pour aller vers la vie éternelle. Un pèlerin, ok, il se met en route et puis il va monter peut-être une petite toile pour couvrir de la rosée du matin. Mais il ne va pas commencer à aller tailler des blocs de pierre dans la carrière et puis aller cimenter ensemble pour se fabriquer une maison. Sinon, il n'est plus un pèlerin. Le pèlerin passe une nuit, puis il part ailleurs. Il est en route. En route pour ailleurs. Et nous sommes en route pour le ciel. Et Seigneur nous demande vraiment d'avoir cette attitude du pèlerin qui va traverser la terre. Mais en mettant toute son énergie, son temps, sa capacité en œuvre pour des choses dont la valeur est éternelle. Et malheureusement, nous chrétiens, qui sommes appelés à ça, eh bien trop souvent, nous mettons beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps, d'argent, de capacité pour des choses qui n'ont aucune valeur spirituelle, qui n'ont aucune valeur éternelle. Bon, elles sont là pour nous, comme ça, ça nous fait plaisir ici sur cette terre, de ceci, de cela. Et puis quand on les cumule les unes aux autres dans notre année, qu'on fait le compte de ce qu'il y a eu de la valeur éternelle et de ce qu'il y a eu de la valeur finalement pour terrestre, mais simplement terrestre, on se dit peut-être la proportion est mal équilibrée. Nous sommes invités à être comme Abraham. Regardez 1 Timothée 6, verset 8. 1 Timothée 6, 8. Où nous lisons à propos justement de, j'ai envie de dire, de tout ce qui touche au matériel, à ce qu'on possède, à ce qu'on veut gagner, à ce qu'on veut établir. C'est le gain. Ben, au verset 6, il dit « C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Puis après, il parlait de l'amour de l'argent qui égare loin de la foi, qui jette dans bien des tourments. Et il dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Mais nous retenons dans ce passage en particulier que nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter, sauf ce qui a de la valeur au ciel. Et c'est ce que dit Jésus en Jean 6, Jean 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Il dit « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Voyez-vous, le pèlerin, quand on fait un pèlerinage, quand on se met en marche, ce qui compte dans ce pèlerinage, ce n'est pas ce qu'on va faire comme commerce, ce n'est pas ce qu'on va établir comme relation d'intérêt ou de sympathie, etc. Le pèlerin se met en marche pour un voyage intérieur. Il se met en marche pour réfléchir aux choses de Dieu, pour évaluer sa vie et pour se détacher justement de tout ce qu'il rattache à la terre et pour, au travers de cette mise en marche, retrouver l'essentiel. Retrouver l'important. Le pèlerin, il travaille non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternel. Et nous sommes invités à cela. Paul dit donc à Timothée, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Il ne faut pas que ce qui est de la terre nous immobilise. Je donne un exemple. Ce qui est de la terre est très représenté, par exemple, par l'immobilier. Hein, l'immobilier. Les biens immobiliers. Les maisons. Mais il ne faut pas que l'immobilier nous immobilise. C'est un exemple. Si nous sommes des pèlerins, vous savez que nous achetons une nouvelle maison. Et c'était intéressant parce que dans toute notre réflexion qui a beaucoup bougé, alors on cherchait tel type de maison, etc. Et puis je ne trouvais pas dans ce que j'avais envie. Et puis, je vous dis, bon, ben voilà, dans 2 ans, tout ça, Esther travaillera. On pourra y mettre un peu plus d'argent. On fera un crédit plus conséquent pour atteindre tel niveau de biens immobiliers. Et là, ma femme, qui, comme chacun le sait, est la voix de la sagesse, pour son mari en tout cas, dit non. Elle dit, je veux qu'on reste dans un crédit dont on a l'habitude, qui est notre budget quotidien, qui est sur mon seul salaire en fait, voilà, et voilà, qu'on peut assumer tranquillement. Elle dit, parce que, ok, quand je travaillerai, on pourra le payer, il n'y a pas de souci. Mais le jour où tu veux te remettre à mi-temps pour l'église, le jour où tu veux peut-être arrêter ton travail, ben, tu ne pourras pas. Parce qu'on aura un crédit là, qu'on pourra payer si chacun de nous travaille, il n'y a pas de souci. Mais il ne faudrait pas que ça vienne entraver l'appel du Seigneur. Si on est pris à la gorge parce que oui, on a fait ce crédit qu'on peut tranquillement payer, mais que tu te dis, mais j'aimerais bien me remettre à mi-temps, j'aimerais bien, eh bien tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, tu seras pieds et poings liés, immobilisé par l'immobilier. Alors après, on a descendu notre gamme et on est resté dans quelque chose qui ne nous immobilisera pas. C'est un exemple, hein, mais pour dire que c'est important dans les choix que nous faisons, dans nos choix terrestres, peut-être le choix d'un métier, peut-être l'endroit où nous allons habiter, un endroit où il n'y a aucune église aux alentours, etc. Alors c'est très compliqué après, hein, de vivre une vie chrétienne alors que nous n'avons pas une famille spirituelle. Voilà. Mais nous faisons des choix. Soyons sûrs que ces choix soient des choix de pèlerins. C'est-à-dire de quelqu'un qui, comme Abraham, n'oublie pas qu'il est de passage et qu'il travaille pour les choses, non pas celles qui périssent, mais pour celles qui demeure jusque dans la vie éternelle. Nous allons maintenant nous intéresser à Daniel. Nous avons vu que nous sommes pèlerins, étrangers et voyageurs. Daniel, c'était un membre de la famille princière de Juda. Et l'empire babylonien a conquis le royaume juif et a emmené en exil, je dirais, l'élite juive dont Daniel fait partie. Et Daniel devient donc un étranger là où on l'emmène pour habiter. Et en tant qu'étranger, eh bien, il n'a pas le même Dieu, il n'a pas la même culture, il n'a pas la même loi morale. Et Daniel est remarquable parce qu'il va agir réellement et rester comme un étranger, tout en vivant et en s'intégrant là où Dieu l'a placé. Il n'est pas le seul à avoir été déporté. Mais parmi les dizaines de jeunes hommes qui faisaient partie de l'élite, eh bien, on va les habituer, on va les... D'abord, on change leur nom, on leur donne un nom babylonien, et puis, petit à petit, on va les intégrer à la culture et à la religion babylonienne, en les habituant à manger ceci, à manger cela, à participer aux sacrifices, à participer aux fêtes, etc. Et tout de suite, Daniel, lui, prend position, alors qu'on lui amène tel type de viande, qui n'est pas, comme vous le savez, cachère, qui n'est pas, voilà, il y a toutes ces lois, hein. Il dit, non, moi, je ne mange pas de cela, je ne me souillerai pas. Je suis ici et j'aime Dieu et je ne vais pas sacrifier ma foi pour, entre guillemets, faire comme tous les habitants du pays. Je suis un étranger spirituel. Bien davantage qu'un étranger, j'ai envie de dire, de frontière. Et lorsque la parole nous dit que nous sommes des étrangers sur cette terre, il s'agit bien d'être des étrangers spirituels, étrangers au prince de ce monde qui est Satan, étrangers à la pensée qui gouverne le monde et qui n'est pas celle de Dieu et qui combat celle de Dieu. Eh bien, nous sommes étrangers à cette pensée qui habite le monde, qui prend sa racine dans la rébellion d'Adam, dans sa désobéissance, qui prend racine dans le péché et qui se dresse contre Dieu. Et nous sommes donc invités, comme Daniel, à ne pas nous souiller avec ce monde et à vivre en étranger spirituel en disant « Non, moi je ne mange pas de ce pain-là. » Nous trouvons cette exhortation en 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez ce passage ? Et c'est bien comme étrangers et voyageurs sur cette terre que nous sommes exhortés à nous abstenir, c'est-à-dire à refuser les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ce qui s'oppose à la pensée de Dieu, ce qui va abîmer notre obéissance au Seigneur et notre pureté, notre sainteté en Dieu, parce que le monde ne pense pas comme Dieu. Le monde est étranger et ennemi de Dieu par ses pensées, ses mauvaises œuvres, nous dit l'Épître aux Romains. Alors nous devons vraiment vivre comme Daniel en disant, attention, c'est vrai que je suis dans ce monde, mais j'y suis comme un étranger spirituel et je vais faire attention. Nous voyons comment Daniel a pris position. Le texte en Daniel nous dit très exactement, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller avec les mets délicats du roi. Il y a une résolution de cœur qui est prise, une prise de position dans les pensées, dans l'affection, dans les émotions, une fermeté en disant « Je suis étranger et je veux rester étranger à ces choses-là. Qu'elle n'ait pas une place dans ma vie et que le péché et que la pensée du monde reste bien quelque chose d'étranger plutôt que quelque chose auquel je me familiarise. » Je ne veux pas devenir familier du péché et de la pensée du monde. Je veux rester étranger à ces choses-là. Bien sûr, cela ne signifie pas que Daniel ne s'est pas, comment dirais-je, investi, mis à l'écart. Il est resté étranger spirituel par rapport à ce qui était contre Dieu. Mais il a été en bénédiction au milieu de la ville et du pays, de la nation, de l'empire dans lequel il a vécu. Il est devenu l'un des plus proches conseillers du roi. Et il a cherché le bien de la nation dans laquelle il vivait. Et nous, en tant que chrétiens, nous pouvons être étrangers aux convoitises charnelles, hein, qui font la guerre à l'âme et qui sont véhiculées par la pensée de ce monde, par les médias, en particulier, hein, de nos jours, par tous les médias. Nous pouvons rester étrangers à cela tout en vivant d'une manière où nous allons nous insérer dans notre voisinage, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de famille, comme Daniel, pour être en bénédiction aux autres. Jésus dira : vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et le Seigneur a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Je fais une petite parenthèse encore sur cette facette de l'étranger. Dans cette semaine universelle de prière, pour que le fait que nous soyons nous des étrangers dans ce monde nous aide aussi à avoir une juste attitude vis-à-vis des étrangers, et là j'ai envie de dire de frontières, qui vivent parmi nous. Accueillir l'étranger, aimer l'étranger. Nous le lisons en Deutéronome 10. Deutéronome 10, verset 19, voilà ce qui a été ordonné à Israël concernant les étrangers qui arrivaient sur le territoire. Deutéronome 10. Au verset 19. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Dieu dit à Israël : vous avez vécu ce que c'est, cette expérience que de vous sentir et d'être étranger dans un pays, et que les gens du territoire vous regardent comme des étrangers, vous traitent d'étrangers, peut-être vous maltraitent. En tout cas, vous avez été étranger, et vous savez ce que c'est d'être étranger. Alors, vous aimerez l'étranger. Et nous, en tant que chrétiens, au moins spirituellement, déjà, nous savons ce que c'est qu'être étranger. Demandez aux jeunes, quand ils sont au collège, quand ils sont au lycée, s'ils ne se sentent pas parfois un peu des extraterrestres vis-à-vis de leurs copains et copines, par rapport aux valeurs, par rapport à ce qu'on vit. Alors peut-être certains combattent et luttent en disant « j'ai bien envie de m'assimiler, moi, et de ne plus être étranger ». Mais de devenir familier de tout cela. Et puis, l'Esprit de Dieu en eux qui dit non. Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors, oui, on sent, quand on arrive dans un groupe, et on se sent étranger. Peut-être dans le milieu professionnel, en tant que chrétien. Et bien que cela puisse nous aider à comme pour Israël, avoir cette attitude d'accueil, de compréhension, d'amour. Il a dit, vous aimerez l'étranger. Et nous avons dans notre pays beaucoup d'étrangers, et le Seigneur nous invite à les aimer. Et dans cet amour, en les accueillant, à partager notre foi. Mais si nous mettons des barrières et des obstacles, nous ne pouvons pas communiquer l'Évangile, ça c'est sûr. Et certainement que le Seigneur envoie des étrangers pour que nous puissions leur parler de Jésus et qu'ils découvrent l'Évangile qui transforme les vies. Amen. Alors ne passons pas à côté de cela. Nous terminons avec Paul le voyageur. Alors, Abraham le pèlerin, hein, notre passage sur terre, c'est pour un temps. Ce qui dure, c'est la vie éternelle, les yeux fixés sur la cité céleste que Dieu prépare. Et ça veut donc dire pour nous, est-ce que je travaille pour les choses qui périssent, ou est-ce que je travaille pour les choses qui demeurent jusque dans la vie éternelle? Première chose. Deuxième chose, Daniel l'étranger. Comme Daniel, résoudre, prendre cette résolution dans le cœur de ne pas nous souiller avec la pensée du monde, le courant du monde. Je vous exhorte, bien aimés, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, parce que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Et puis donc, cette troisième facette, le voyageur. Paul est sans doute le représentant biblique du voyageur. D'ailleurs, dans les Bibles, souvent, à la fin des Bibles, il y a les cartes géographiques des voyages de l'apôtre Paul qui sont insérées dans la fin des Bibles. On voit le premier voyage missionnaire, le deuxième voyage, le troisième, voilà. Les voyages de l'apôtre Paul. Oh, il en a parcouru des routes, il en a pris des bateaux avec quelques naufrages de temps en temps comme ça, et voilà, il a fait du chemin. Et puis il nous dit, ah, j'espère même pouvoir aller en Espagne, etc. On ne sait pas s'il a pu y aller, peut-être pas, que sais-je. Mais vous voyez, il projetait des voyages pour faire du tourisme, bien sûr. Il s'est dit, en Espagne, il y a certainement des choses très sympathiques à visiter. Ah, il prenait des photos, puis il revenait avec son album en disant, hey, t'as vu ça c'est beau, hein, ça c'est pas mal. Non, quand il faisait les voyages, il revenait avec son album en disant, mais j'étais dans telle ville et voilà ce qui s'est passé, j'annonçais l'évangile et il y a eu tant de personnes qui ont accepté Jésus et il y a une église qui s'est fondée là. Et puis là par contre, oh, on nous a mal reçus. Là, on nous a lapidés. Mais quand même, il y a deux ou trois personnes dont le cœur étaient sincères et qui ont rencontré Jésus. Et voilà, il raconte, il fait le résumé de ses voyages, son petit album photo spirituel, j'ai envie de dire, Paul le voyageur. Nous avons besoin de nous mettre dans cette perspective de l'apôtre Paul, cette perspective qui est d'aller. Aller. Et pas aller voyager pour du tourisme, pour notre propre satisfaction. Mais aller pour quoi faire? Eh bien, voyons en Matthieu ce que le Seigneur nous dit. Matthieu 28, 19. Matthieu chapitre 28, qu'est-ce que Jésus laisse comme ordre de mission aux disciples un premier verbe. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et les voyages de l'apôtre Paul sont directement liés à cet ordre qu'on reçoit de Jésus d'être des voyageurs sur la terre. Des voyageurs, c'est-à-dire dont la disposition d'esprit intérieur, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire un voyage touristique, hein, de temps en temps. Hein. Je parle de cette disposition intérieure qui nous pousse à être non pas des sédentaires qui restons chez nous, bien enfermés et qui ne rencontrons jamais personne et qui ne sortons pas, qui n'allons pas. Oh non, moi j'ai ma petite vie, mes petites pantoufles et tout ça. Je suis, on dit, casanier, voilà. Eh bien, le Seigneur ne nous demande pas d'être casanier pour lui. Il dit, non, allez. Cette disposition intérieure où on va, on sort, et on va à la rencontre, et on voyage, pour faire de toute nation des disciples. Est-ce que nous voulons voyager pour Jésus? C'est-à-dire, allez, et parler de Jésus aux autres. Alors, que nous puissions, cette semaine, réfléchir à ces choses, prier avec toutes les églises, sœurs, qui, dans cette semaine universelle de prière, s'inscrivent dans cette perspective d'être pèlerin, étranger et voyageur sur la terre. Je vous encourage à aller sur Internet ou à demander à quelqu'un qui peut vous imprimer, si vous n'avez pas Internet, mais rares sont les gens aujourd'hui qui l'ont pas. Mais il y a chaque jour un personnage biblique, en fait, qui est proposé avec une perspective de réflexion sur cette thématique pèlerin, étranger, voyageur. Jean-Denis nous a projeté tout à l'heure une première partie des sujets de reconnaissance, de prière et de confession. Pouvons cette semaine continuer en ce sens. Mardi, bien sûr, dans la rencontre, 15h, vendredi prochain. Que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin peut-être de retrouver ma vraie identité. Parce que nous parlons d'identité. Qui suis-je en tant que chrétien? Que fais-je sur cette terre en tant que chrétien? Seigneur nous dit, tu veux que je te dise un morceau de ton identité en tant que chrétien, qui tu es? Tu es étranger et voyageur sur la terre. Sois comme Abraham, qui ne regardait pas aux choses visibles, mais qui regardait aux choses invisibles, parce que les invisibles sont éternels. Travaille pour les choses éternelles. Sois comme Daniel. Reste un étranger spirituel à la pensée de ce monde. Et sois comme Paul, un voyageur pour l'éternel, qui va et qui fait toutes les nations des disciples. Prions. Seigneur, nous voulons te demander vraiment de nous aider à mieux prendre conscience de qui nous sommes en tant que tes enfants. Nous n'appartenons pas à ce monde et tu veux que nous réalisions profondément que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre de passage et que nous agissions en conséquence. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous menons une vie, des journées, des semaines, des mois où Nous ne sommes décidément plus du tout des pèlerins. Nous avons perdu de vue notre destination céleste et en même temps nous t'avons perdu toi de vue, ou quasiment. Nous sommes installés, préoccupés de nos affaires terrestres. Nous y mettons notre temps, notre énergie, notre affection, nous y mettons tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Et nous n'avons plus la cité céleste en vue. Et nous ne travaillons plus pour les choses qui ont une valeur éternelle. Te demandons pardon pour cela, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, également être comme Paul, des voyageurs pour toi qui vont, qui ne sont pas des casaniers, mais qui vont, qui sortent, qui parlent pour annoncer Jésus aux autres. Merci Seigneur de travailler nos cœurs pour vivre réellement notre identité de pèlerins, d'étrangers et de voyageurs sur cette terre. Merci pour la cité céleste que tu nous prépares. Merci pour cet héritage. Merci pour la fin du voyage où nous serons dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen.